pas qu'il y a des utopies qui ont un lieu précis et réel.
Parlons France.
Parlons France.
Parlons
France.
Parlons France. Le magazine mensuel de la France, la Fédération des radios associatives du Nord de la France.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Parlons Franf, le magazine des radios associatives du Nord de la France. Le principe de ce rendez-vous, chaque mois, des invités réagissent sur des reportages de terrain consacrés à des questions de société sous un angle régional. Pour animer ce 16e numéro, Jean-Philippe Planck de Radio Plus à Douvrin,
Anthony Vasseur de Transat FM à Outreau
et Christophe Pasquier de Radio Plus.
Depuis ses origines dans les années 70, la politique de la ville cherche à fédérer l'ensemble de ses partenaires afin d'inscrire dans un cadre cohérent leur intervention au bénéfice de quartiers en situation de décrochage. Elle est ainsi mise en œuvre localement dans le cadre des contrats passés entre l'État et les collectivités territoriales. Les formes et les modalités de cette contractualisation ont fortement évolué. Les contrats de ville de nouvelle génération succéderont aux 497 contrats urbains de cohésion sociale. Les CUX. Ces contrats permettent de formaliser les engagements pris par l'État, les collectivités territoriales et les autres partenaires de la politique de la ville au bénéfice des quartiers défavorisés. Ils s'appuieront sur le projet de territoire porté par l'intercommunalité, mais devront également tenir compte des enjeux nationaux identifiés par l'État et déclinés localement.
Nous avons voulu en savoir plus sur les contrats de ville, notamment dans les domaines de la cohésion sociale, du développement de l'activité économique et de l'emploi et de la participation des habitants à ces contrats, car ces derniers sont pour la première fois directement associés à la démarche contractuelle. Alors pour répondre à ces questions, nous avons invité Xavier Servinski. Bonjour, vous êtes sous-préfet et secrétaire général adjoint de la préfecture du Pas-de-Calais. Ainsi que Patrick Rodier, inspecteur jeunesse et sport et délégué départemental de la vie associative. Bonjour à vous, vous travaillez au sein de la direction départementale de la cohésion sociale du Pas-de-Calais. Alors, avant d'aborder le sujet de ce mois, pouvez-vous, Patrick Rodier, nous rappeler les missions de la direction départementale de la cohésion sociale du Pas-de-Calais ?
Tout d'abord, la direction départementale de la cohésion sociale du Pas-de-Calais, c'est depuis 2010 le regroupement de l'ancienne DDJS, Direction départementale jeunesse et sport, et les aspects sociaux de l'ex-DAS. Donc ça a fait la direction départementale cohésion sociale, ça regroupe donc toutes les missions. Ma mission principale, en tant que délégué départemental à la vie associative, c'est de nouer des liens, de créer un réseau pour favoriser l'accès à l'information aux bénévoles, aux associations. Et depuis 5 ans, j'ai créé un réseau de 10 pôles ressources d'aide à la vie associative, au moins un par arrondissement, qui sont chargés d'accueillir, d'informer, d'orienter, d'accompagner tout bénévole, toute association, quel que soit son objet, sportif, culturel, etc. Et je suis chargé d'animer ce réseau avec Stéphanie Klein de l'Association d'Action Éducative, comme on le fait dans le Pas-de-Calais, une co-animation État-Association. Voilà.
Pour entrer dans le vif du sujet, nous allons d'ici quelques instants présenter un état des lieux de la politique de la ville. Mais auparavant, je vous propose un petit retour en arrière avec un sujet de 1957. Et ça s'intitule « Crise du logement, un problème national ».
Cette rue que l'on croirait sortie d'un cauchemar se trouve être une rue de Paris. Elle pourrait aussi bien se situer à Lyon ou à Marseille. Trop de ces rues sans joie, trop de terrains vagues servent de refuge à des enfants qui n'ont même pas assez de place dans ces taudis. Combien de familles cherchent un logement décent, on ose fixer leur nom. Pourtant, des maisons se construisent. D'importants immeubles s'élèvent. Et certes, il n'est pas impossible de trouver un appartement. Mais la plupart du temps, ce n'est pas trouver qui est difficile, c'est faire face à l'achat ou au loyer hors de portée. Ce problème national, que ne peuvent résoudre que les constructions accessibles, ne pouvait échapper à l'attention de la sécurité sociale. Certes, il ne lui appartient pas de résoudre la crise du logement, mais elle a consenti un effort important dans ce domaine en investissant dans la seule construction 25 milliards depuis 8 ans. En subventionnant des offices et sociétés d'HLM, en accordant des prêts individuels ou collectifs sans intérêt, elle a donné des armes à la lutte contre le taudis. L'aide au logement dépasse d'ailleurs la construction proprement dite. Elle s'étend à l'amélioration du foyer, par exemple à l'achat d'appareils ménagers. Cependant, le nombre des intérieurs accessibles et confortables ne répond encore ni à la demande, ni à la nécessité. Mais un point est acquis. La lutte menée contre ce qui porte le plus atteinte à la santé de la famille, l'absence d'un foyer digne de ce nom.
Voilà pour ce coup d'œil dans le rétroviseur. Alors, plus proche de nous, de 1977 à 1984, est lancé le premier plan banlieue. On parle alors des opérations Habitat et Vie sociale. Puis de 1984 à 1994 sont rédigées les conventions de développement social des quartiers. Les contrats de ville première génération sont, eux, mis en œuvre de 1994 à 2006. Et enfin, les CUX, contrats urbains de cohésion sociale, ont été en place de 2006 à 2014, avant donc de s'effacer l'an dernier au profit des nouveaux contrats de ville. Alors, beaucoup de tentatives, donc, et comme le fait remarquer le site internet d'information slate.fr, les banlieues ne manquent pas de sigles. La Cour des comptes, dans un rapport publié le 18 juillet 2012, a épinglé la politique de la ville, pointant un empilement des dispositifs sans véritable réalisation des objectifs. Xavier Servinski, quelle est la situation aujourd'hui, 40 ans quasiment après le premier plan banlieue?
La situation, elle est très très différente à l'échelle du territoire national, suivant les territoires, suivant les grandes agglomérations, les grands ensembles urbains, notamment on peut avoir en esprit l'agglomération lyonnaise, parisienne, marseillaise, avec un habitat vertical du collectif très concentré, et la réalité aussi des quartiers politiques de la ville dans le Pas-de-Calais, et notamment aussi sur le territoire du bassin minier, où on est principalement sur de l'habitat individuel, horizontal, avec des cités minières. La réalité, c'est qu'en effet, ça fait un certain nombre de décennies qu'il y a des actions qui sont proposées. On l'évoquait dans le son, notamment en 1957, qui faisait écho à l'appel de l'abbé Pierre, hiver 54. C'est vrai que la question de la politique de la ville a souvent, et toujours d'ailleurs, une entrée par la question de l'urbanisme, la question du logement et de l'habitat. Ici, c'est une question extrêmement prégnante. Monsieur le Premier ministre est venu à Lens, il est venu également à Liévin avec la ministre Caner et Madame Cosse tout début juillet, pour justement aussi relancer les travaux et la réflexion autour de l'évolution des cités minières et du patrimoine sur ce territoire. C'est une réflexion sur laquelle on avait fait beaucoup. Je pense notamment au programme En Rue, premier programme de renouvellement urbain qui a été porté par Jean-Louis Borloo. Beaucoup a été réalisé, notamment en termes de déconstruction d'habitats insalubres, la reconstruction d'habitats plus à taille humaine, notamment d'immeubles beaucoup plus adaptés à une vie sociale. Je crois qu'on voit souvent les échecs, en tout cas la demi-réussite, mais que serait-il de nos quartiers, que serait-il de nos banlieues si depuis 40 ans, en effet, tous ces dispositifs, tous ces investissements, tous ces engagements, à la fois sur l'urbain, mais également sur le social, sur l'emploi, sur l'économie, n'avaient pas été faits? Dans quel état serait notre pays? Donc c'est vrai qu'on a un constat, en effet, de non-satisfaction, puisque tout n'est pas résolu, malheureusement, et c'est une réalité, et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que la Cour des comptes a pointé bien les limites de ces politiques. Et en effet, depuis 2012, il y a eu une réforme, il y a une nouvelle loi qui a permis de rationaliser, simplifier, essayer de répondre à ces limites. Mais moi, quand je regarde l'historique, depuis l'appel de l'abbé Pierre d'hiver 54 jusqu'à maintenant, notre pays a réussi quand même à relever beaucoup de défis. Alors il y en a de nouveaux qui se présentent à nous, on pourra l'évoquer tout à l'heure, notamment sur la radicalisation, sur une forme de décrochage un peu de nos territoires, ça a été évoqué notamment par le Premier ministre, mais vraiment je pense qu'il faut aussi reconsidérer dans sa globalité l'ensemble de l'action publique.
Alors pour que les auditeurs et les auditrices se situent bien, quels sont les domaines d'intervention de cette politique de la ville?
Alors c'est en effet là qu'on touche du doigt la difficulté, la complexité du sujet. La politique de la ville, c'est un terme assez générique qui regroupe en fin de compte l'ensemble de la vie de la cité. Donc on va concerner, et cette action va concerner aussi bien la problématique des transports urbains, la réflexion par exemple sur les bus à haut niveau de service, BHNS, hein, qui sont en réflexion dans plusieurs agglomérations ou communes dans le Pas-de-Calais, voire à une époque c'était l'installation de tramway. Ça va également bien entendu sur les questions liées à la sécurité. Je pense par exemple aux ZSP, aux zones de sécurité prioritaires, que ce soit dans le Boulonnais, à Boulogne, ou bien entendu à Lens, qui ont été installées depuis 2 ans. Ça passe bien entendu par la question de l'urbanisme, je l'évoquais à l'instant, le renouvellement urbain, plusieurs milliards, dizaines de milliards d'euros qui ont été investis depuis une dizaine d'années. Dans le Pas-de-Calais, ça a été sur le premier programme de renouvellement urbain, c'est plus de 300 millions d'euros de crédits d'État qui ont été engagés pour changer les territoires, changer la vie au quotidien des habitants. Et puis bien entendu, c'est des sujets extrêmement importants comme la santé, l'éducation, la possibilité aussi de renforcer l'accès à l'emploi. Donc on se rend bien compte en effet qu'on touche sur la globalité de l'action publique et également aussi sur la globalité des partenaires qui portent cette action publique, dans un contexte aussi où l'État, contrairement peut-être aux années 50 ou aux années 70, vous faisiez référence à ces périodes-là, assumer et porter énormément de l'action publique à lui seul. Depuis les lois de décentralisation, on partage cette responsabilité avec les collectivités, les communes, les agglomérations, les conseils généraux, maintenant départementaux, conseils régionaux, grandes régions des Hauts-de-France, les associations, les grands opérateurs comme la caisse, la CAF, l'allocation familiale, les CPAM, la Caisse des dépôts et consignations. Donc on a une multitude de partenaires qui ont des compétences, des financements, des outils. Et toute la difficulté à la politique de la ville, c'est de faire une synthèse à travers un contrat, et un contrat unique qui est le contrat de ville.
Alors, en 2014, il y a eu une redéfinition des quartiers prioritaires. Sur quels critères, justement, ont été redéfinis ces quartiers ?
Eh bien, sur un critère assez simple et un critère unique, en fin de compte. Je pense que c'est le bon sens aussi qui a prévalu à ce moment-là. L'analyse qui a été portée, notamment à travers les différents rapports et les audits, vous évoquez le rapport de la Cour des comptes. D'ailleurs, au passage, on fustige souvent la Cour des comptes sur ces rapports qui n'aboutissent à rien. Manifestement, sur ce dossier, le rapport de la Cour des comptes a fortement influencé les parlementaires dans l'orientation de la nouvelle loi, la loi de 2014, portée par François Lamy à l'époque, et qui a défini la nouvelle politique de la ville. Alors, le critère qui a été décidé, c'est un critère unique, c'est le revenu des habitants. Avec le souci, c'était en effet de donner de la cohérence et du sens à l'action publique. Si on fait de l'action pour la politique de la ville, c'est qu'on s'intéresse à des ensembles urbains, d'au moins, c'est le législateur qui l'a défini comme ça, d'au moins 1000 habitants. Donc c'est comme ça qu'on a défini les territoires quartiers politiques de la ville, quartiers prioritaires. On a supprimé tous les acronymes, on a supprimé tous les zonages, et on s'est basé uniquement sur le revenu des habitants. Donc avec une base minimale de 1000 habitants, et sur cette base, donc, on a proposer un découpage de 1500 quartiers qui représentent 5 millions d'habitants à l'échelle nationale.
Alors, est-ce qu'au niveau départemental, la rénovation urbaine des grands ensembles et l'amélioration des logements et des quartiers ont vraiment favorisé les initiatives et réduit les inégalités ? Parce que c'est quand même le fond du problème.
Je pense que l'erreur d'analyse qui peut être faite et qui a pu être faite à la fois par les services de l'État, par des collectivités et un certain nombre de responsables publics, peut-être par le passé, mais facile à dire avec l'expérience et le recul, c'est que en effet la question du renouvellement urbain est fondamentale dans la politique de la ville. La question de l'habitat et le logement, c'est souvent la première préoccupation, et avec la question de la sécurité et de l'emploi des habitants des quartiers. Donc il fallait répondre, et souvent répondre en urgence, y compris il y a quelques années. Néanmoins, ce n'est pas suffisant. Et tout l'enjeu, en effet, c'est renouveler un quartier, renouveler l'habitat, c'est bien, mais ne pas proposer de vie associative, ne pas proposer d'emploi, ne pas proposer des réponses en matière de sécurité, en matière de transport, en matière d'éducation ou d'accès à l'emploi, ça, c'est pose en effet d'autres sujets. Et donc, le renouvellement urbain tel qu'il a été envisagé et proposé, notamment sur les 15 dernières années, c'est une étape fondamentale, mais pas suffisante, en effet, pour faire basculer complètement ces quartiers, je dirais, dans un fonctionnement beaucoup plus normal et beaucoup plus équilibré, comme on peut le souhaiter.
Alors je vous propose à présent de découvrir une association de Liévin, l'association Passerelle, qui a pour but l'insertion sociale, culturelle et professionnelle des personnes en difficulté. Cette association a mis en place 2 actions dans le cadre de la politique de la ville, l'accompagnement emploi et l'accompagnement des pré-décrocheurs scolaires. Ourida Ladjissi, responsable de formation du secteur insertion de l'association Passerelle.
Donc l'accompagnement emploi, l'objectif étant de remettre un pied à l'étrier à des personnes en très grande difficulté, leur redonner des repères, repères d'emploi, travailler avec eux des CV, des lettres de motivation, les redynamiser, mais toujours dans l'idée de les accompagner, ne pas les aider. Permettre à ces personnes de faire des périodes d'immersion en entreprise, donc découvrir le monde du travail, valoriser leurs compétences et leurs qualités, partir de leurs capacités. On a tendance à baisser les bras, donc l'idée c'est vraiment de les redynamiser et d'avoir confiance en eux et de dire que tout le monde est capable d'eux. Quoi.
J'imagine qu'il y a aussi des freins périphériques, des questions de mobilité, d'estime de soi, etc.
Complètement, exactement. Donc il y a beaucoup de personnes, donc la mobilité c'est un vrai problème sur notre territoire. Quand on n'a pas de travail, on n'a pas forcément beaucoup d'argent, donc acheter une voiture c'est encore compliqué. Alors partir en bus, il n'y a pas de souci, hein, mais on se pose aussi la question, est-ce que nous, on irait en bus sur l'île ou sur un endroit X ou Y pour trouver du boulot? C'est pas toujours simple. Donc effectivement, on met aussi en place des ateliers pour travailler la mobilité, travailler tout ce qu'on appelle les problèmes périphériques. Donc en discutant avec ces personnes, on se rend compte qu'ils ont des problèmes de santé, des problèmes d'estime de soi, de confiance en soi. Donc l'idée, c'est vraiment de gagner leur confiance, de vraiment de créer du lien entre le participant à l'atelier et la formation et l'accompagnement à l'emploi.
Et sur le second atelier, donc plus en direction des jeunes cette fois?
Alors ce qu'on appelle nous, c'est le pré-décrochage. Donc c'est éviter justement que ce jeune décroche au collège. Donc on sait que le pré-décrochage, c'est souvent dû à de l'absentéisme, à des difficultés sociales, à des problèmes périphériques qui font que ces jeunes quittent petit à petit la structure du collège, le lycée, etc. Donc ce que l'on propose au sein de la commune de Liévin, c'est de mettre un pied dans l'éducation nationale en entrant dans les collèges et de mettre en place des ateliers autour du projet professionnel du jeune. Alors des résultats, oui, on en perçoit, heureusement, hein, ce qui nous permet aussi de reconduire à chaque fois les dossiers politiques de la ville. Mais ce n'est pas de tout repos, moi je ne vous le cache pas. Sur un groupe de 10 jeunes, on n'a pas 10 résultats positifs, ce n'est pas vrai, ça serait de mentir de vous dire ça. Mais on arrive quand même à travailler avec la famille, redonner du sens aussi à l'enfant et à la famille de l'importance de l'école, de la scolarité. Donc c'est vrai qu'on a des résultats, des bons résultats, des jeunes qui se disent « Tiens, mon projet professionnel, tout compte fait, c'est pas celui-là, mais plutôt celui-là. » Se rendre compte aussi que le monde du travail, c'est pas toujours simple. Donc on a quand même pas mal de résultats.
Et justement, sur les ateliers plus là concernant les adultes, vous avez une idée des résultats?
Alors, j'ai pas les chiffres là sous les yeux, hein, mais quand on fait de l'accompagnement à l'emploi, on n'a pas du CDI, hein, c'est pas vrai, hein, mais on a des personnes qui retournent en formation. On n'a si ce n'est que déjà la revalorisation et l'estime de soi, des personnes qui ont confiance en eux. Alors c'est vrai, ce n'est pas des chiffres qui font baisser les taux du chômage, hein, mais ça permet aussi aux personnes de retrouver leur dignité, voilà, de marcher dans la rue la tête haute, j'ai envie de dire qu'il y a des gens qui ont cru en eux. Et donc tout ça, ça fait aussi partie pour nous des chiffres hyper importants. Mais il y a aussi des chiffres à l'emploi. Oui, il y a déjà eu des CDD de signés, des personnes qui sont reparties en formation. Il y a des chiffres quand même concluants. Quoi.
Est-ce que vous parvenez à toucher l'ensemble du public souhaité avec vos actions?
Je vais vous dire non. Parce qu'on n'est pas assez sur le terrain. Pour pouvoir mener des actions comme on mène aujourd'hui, il nous faudrait être, si on veut vraiment toucher tous les habitants sur la commune de Liévin, il faudrait être beaucoup plus. On est 3 à intervenir dans les cadres de la politique de la ville. Il y a 4 collèges sur Liévin, un lycée, il y a 3 centres sociaux, un 4e qui est en train de se construire. Je veux dire, ça fait quand même pas mal, hein. Donc non, on ne touche pas toute la population sur Liévin, d'autant plus qu'aujourd'hui, on est aussi sollicité sur d'autres communes.
Et justement, au niveau des moyens alloués dans ce cadre, hein, de la politique de la ville, comment estimez-vous ces moyens mis en œuvre? Est-ce qu'ils sont suffisants pour vous et pourquoi?
Moi, je vais vous dire, c'est jamais suffisant, hein. Plus il y a d'argent, plus on met en place des actions, hein, ça c'est sûr. Mais on est déjà très satisfait de ce que la politique de la ville met en place. Peut-être financer plus de postes humains, parce que je pense qu'il manque de l'humain pour aller sur le terrain. Il y a une souffrance, je pense qu'il y a une grosse souffrance sur la population, qu'elle soit adulte ou qu'elle soit jeune. Et nous, on le ressent énormément, quoi. Surtout quand on voit au niveau des problèmes périphériques, on a des jeunes et puis des moins jeunes, hein, qui n'ont jamais travaillé. On leur demande aujourd'hui de travailler sur des projets, un projet professionnel. Déjà, faut-il qu'ils puissent se dire ce soir, qu'est-ce que je vais manger?
Comment améliorer cette politique de la ville, selon vous, qui êtes sur le terrain?
Je ne sais pas. Je partirai toujours dans le sens où il faut donner plus de moyens, que ça soit humain, financier. peut-être permettre aussi aux porteurs de projets de participer à des réunions, à des comités de pilotage, pour pouvoir exprimer justement ce ressenti. Nous, les actions que l'on mène, donc on fait des bilans, il n'y a pas de souci, on fait des bilans écrits, mais ça ne reste que des bilans écrits. Mais concrètement, ce qu'on a besoin, moi je pense qu'il y a aussi besoin de se mettre autour d'une table et de dire voilà, il y a ça qui ne va pas, comment on fait pour l'améliorer, qu'on puisse être plus écouté. On passe énormément de temps, il faut savoir qu'on passe du temps à monter des dossiers, hein. On passe plus de temps presque administrativement que sur le terrain, alors que je pense, moi, qu'on devrait être plus sur le terrain et faire moins de papiers administratifs, mais ça c'est mon avis. Au niveau de la politique de la ville, au niveau de la CAL ou de la DDCS ou autre, il manque quand même de l'échange. De l'échange, voilà, moi les interlocuteurs, si ce n'est qu'au téléphone, je ne les ai jamais vus. On commence à rencontrer le délégué de la sous-préfète, donc ça commence. Mais pareil, on nous parle de jeunes en quartier prioritaire. Moi je ne vous cache pas qu'on prend aussi des jeunes qui ne sont pas en quartier prioritaire. Alors oui, ce n'est pas financé, ça ne rentre pas dans notre plan de financement. Mais moi, un jeune qui vient me voir avec ses parents en me disant « je suis perdu, je ne sais pas quoi faire », je ne peux pas lui répondre « excuse-moi, tu ne fais pas partie du quartier prioritaire ». Ça, ce n'est pas possible. Toute personne qui a besoin d'être accompagnée ou d'être écoutée est la bienvenue chez nous.
Parlons Franf,
le magazine mensuel de la Franf,
la Fédération des radios associatives du Nord de la France.
Voilà pour ce reportage sur l'association Passerelle de Liévin. On a évoqué dans ce sujet les moyens financiers. Alors 450,13 millions d'euros, c'est la somme totale du programme politique de la ville en 2015. Et ça représente, tenez-vous bien, 0,02% du budget total de l'État. Alors pourquoi une si faible part du budget de l'État est-elle consacrée aux politiques de la ville, Xavier Servinski?
Alors... L'analyse que vous proposez, elle est pas juste, parce que la politique de la ville, comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est une politique qui est ciblée sur 1500 quartiers, 5 millions d'habitants sur un pays de plus de 65 millions d'habitants. On est sur une approche où ces crédits du ministère de la ville viennent financer des moyens spécifiques pour ces quartiers et viennent en complément de ce qu'on appelle dans le jargon, le droit commun. C'est quoi le droit commun? C'est tout simplement la présence naturelle et le maillage du territoire des services de police, de Pôle emploi, de la politique de santé, de la caisse, de l'allocation familiale, de l'éducation nationale, des écoles, des lycées, des collèges. Toute cette action publique, elle est déjà présente, financée par l'État, elle est déjà présente avec énormément de fonctionnaires et d'agents sur l'ensemble du territoire. Et donc les moyens de la politique de la ville que vous venez d'évoquer, c'est des moyens qui sont dégagés en supplément pour rajouter un complément, une force de frappe supplémentaire pour proposer un accompagnement supplémentaire.
Donc on est au-delà des 450 millions.
Exactement. Il faut prendre en compte l'énorme base, en effet... de présence sur les territoires et en particulier dans le département du Pas-de-Calais des services de l'État en nombre d'agents, en nombre de moyens et d'effectifs. Bien entendu, rajouter ces moyens spécifiques de l'État qui viennent répondre à des sujets très contextualisés, très locaux, des besoins. Les besoins à Outreau ne sont pas ceux de Calais, qui ne sont pas ceux d'Arras, qui ne sont pas ceux de Liévin, pas toujours. Et auquel, bien entendu, il faut rajouter les moyens de tous nos partenaires. Caisse des dépôts et consignations, l'agence régionale, par exemple, de santé. On peut rajouter les grandes collectivités, la région, le conseil département du Pas-de-Calais, les grandes agglomérations, les intercommunalités, les communes, les fondations, fondations privées, la Fondation de France, les fondations d'entreprises. Je pense à Engie, je pense par exemple à une action qu'on mène sur la Rajoie où une fondation privée a mis 100 000 euros. Donc, on ne peut pas avoir une vision, comment dire, réductrice du sujet uniquement sur ces 450 millions d'euros. Derrière, il y a un véritable effet levier pour aller chercher d'autres financements qui viennent en complément des moyens déjà très conséquents sur le territoire.
J'allais vous poser la question, mais vous y avez répondu finalement. Hein, la politique de la ville doit-elle s'appuyer sur d'autres politiques publiques et donc mobiliser les politiques de droit commun? C'est déjà le cas.
Mais bien entendu. Mais c'est ça le principe et c'est peut-être même la plus grande difficulté. quand vous avez à vous intéresser à tous les champs de l'action de la cité, de la sécurité en passant par l'hébergement-logement, à l'action sociale, à l'éducation, à la parentalité, à la santé, ça a été encore indiqué dans le reportage. Bien entendu, la grande difficulté pour nous, c'est d'utiliser au mieux tous les moyens qui sont déjà dédiés, votés dans les budgets, et notamment dans le budget de l'État, et rajouter avec les moyens de la politique de la ville, notamment côté État, ces fameux 450 millions d'euros, qui représentent pour le département du Pas-de-Calais 8 millions d'euros, 64 quartiers, 8 millions d'euros sur les 1500 quartiers à l'échelle nationale. Ces moyens-là viennent rajouter le complément pour justement renforcer la présence des services publics, la présence de l'État et d'apporter des réponses de proximité. Donc la difficulté, c'est bien entendu de donner du sens à tout cela. Quand on parle dans le reportage, en effet, qu'on travaille sur l'accompagnement des jeunes décrochés, quand on parle, en effet, qu'on est sur le travail de l'estime de soi, c'est un travail fondamental. Mais les actions qui sont financées à travers la politique de la ville, avec notamment ces réseaux d'associations, travail fondamental qu'elle réalise, il se fait en cohérence, par exemple, avec ce qu'on appelle le service public de l'emploi local. Les fameux SPEL, c'est un acronyme, hein, l'État aime bien les acronymes. Ça a été inventé à l'époque par un certain ministre qui s'appelait Xavier Bertrand, qui est maintenant président du Conseil régional des Hauts-de-France, a demandé à ce que les élus du Conseil régional puissent co-présider ces réunions par arrondissement avec un sous-préfet. Et autour de cette réunion qui existe maintenant depuis quelques années, il y a en effet tous les acteurs de l'emploi, privés, publics, qui se réunissent et qui, en proximité, à l'échelle des arrondissements, à l'échelle des agglomérations, proposent des solutions, anticipent des besoins, installation d'entreprises, orientent, font la promotion des dispositifs comme l'apprentissage. Et, le cas échéant pour les quartiers concernés politiques de la ville, disent « on a besoin d'un accompagnement renforcé vis-à-vis des jeunes décrochés ». L'éducation nationale fait beaucoup, mais elle a besoin d'un coup de main, elle a besoin du réseau associatif, elle a besoin des centres sociaux, et donc c'est là, avec ces 450 millions d'euros, qu'on va chercher ses partenaires pour monter des actions complémentaires. Mais voyez un peu la complexité entre le nombre de partenaires, les compétences, les moyens qui sont de chacun avec des évolutions respectives, hein, qui sont à prendre en compte, et donc notre mission qui est d'utiliser ces moyens complémentaires pour vraiment donner de la cohérence à l'ensemble et surtout le contextualiser en fonction des besoins.
Un point qui a été soulevé dans le reportage, intégrer les porteurs de projets qui officient dans la politique de la ville, hein, sur le terrain, est-ce que ce n'est pas justement nécessaire pour une meilleure cohésion sociale? Quel est votre avis à tous les deux?
Je dirai un mot et puis je laisserai la parole à Patrick Audier. Là-dessus, je pense, comment dire, il faut être clair. Moi, de manière assez directe, et je leur dis quand je les rencontre, voilà, on peut pas être jugé parti. On peut pas à la fois, comment dire, demander des subventions aux partenaires publics et également, et donc forcément pour son propre budget, pour monter des actions, et c'est bien légitime, et à la fois donner son avis sur la programmation. C'est déjà un premier sujet, un premier écueil. Néanmoins, la réalité, c'est que ces partenaires, on en a besoin. Les partenaires sur lesquels on a besoin de s'appuyer, pour l'essentiel, font un travail remarquable, qui vient vraiment compléter au mieux notamment l'action des services de l'État, mais également aussi des grandes collectivités sur le champ social, notamment du conseil départemental ou de la CAF. La réalité également aussi, c'est qu'il y a un certain nombre d'instances qui ont été mises en place depuis 2014 et la loi. Je pense notamment aux instances du pilotage du contrat de ville. Il y a dans le département aussi un certain nombre d'acteurs de proximité qui ont été définis autour de ces instances. Chacune des grands partenaires, des grandes institutions que je viens encore de citer, ont défini des correspondants de proximité. Ils sont identifiés. Il y a un site internet qui a été réalisé pour justement la politique de la ville dans le département de manière unique, avec une adresse commune, qui est fait par l'ensemble des collectivités et l'État. Ça s'appelle www.politiqueville62.fr. Sur laquelle, en effet, n'importe qui, habitant, association, peut avoir le contact de son correspondant de proximité et avoir une écoute. Et les délégués de Madame la Préfète, ils sont nombre de 9 dans le département, sont sur le terrain pour rencontrer justement les habitants des quartiers, écouter leurs doléances, leurs propositions, et y compris le monde associatif. Donc, les choses ont quand même beaucoup évolué grâce à la loi, grâce notamment à ce fameux rapport de 2012 que vous évoquiez. Maintenant, après, voilà, c'est un échange, tout ne va pas dans un sens, n'est pas à sens unique. Il y a un échange et aussi, c'est une réalité, des demandes de subventions, on est là pour monter des projets au bénéfice des habitants des quartiers. je le dis aussi très clairement, on est extrêmement exigeant sur l'utilisation de l'argent public. On n'est pas là pour financer des rentes, on n'est pas là pour financer une reconduction systématique d'actions, on est là pour avoir des résultats. On a une obligation de résultat vis-à-vis des habitants des quartiers. Et là, en tant que comptable de l'argent public, on est extrêmement exigeant avec les associations. Ils le savent, ils connaissent mon discours, je le répète régulièrement. On a mis en place des outils pour les accompagner, ce fameux site internet qui dématérialise toute la politique de la ville, qui va simplifier la gestion administrative des dossiers, et ce sera unique en France. Et on a le soutien en plus, et ça a été fait grâce aux aides des collectivités, je pense au conseil départemental et au service du Premier ministre. Mais la contrepartie, c'est qu'ils sont hyper rigoureux sur l'utilisation de l'argent public et qu'ils n'hésitent pas à nous solliciter quand ils rencontrent des difficultés.
Patrick Rodier.
Oui, alors pour compléter, ces porteurs de projets, on a bien sûr besoin, et sont parfois seuls. Et donc, c'est ce que je disais en préambule de l'émission, il y a un réseau de pôles ressources d'aide à la vie associative qui est sur le territoire, sur chaque arrondissement, prêt à donner un coup de main à ces porteurs de projets s'ils avaient une difficulté particulière. Ça, c'est un plus qu'on peut avoir dans le département. Parce que c'est un dispositif que, enfin, je suis désolé de le dire, mais c'est presque unique en France. Donc, ça fait référence en France et il marche plutôt bien. Et donc, qu'ils n'hésitent pas à aller sur le site des services de l'État dans le Pas-de-Calais pour avoir les adresses et les coordonnées des référents des pôles ressources.
Alors que l'État est dans une démarche de simplification administrative, hein, ne faudrait-il pas aussi simplifier un petit peu les dossiers de subvention qui semblent devenus très techniques et chronophages?
C'est ce que j'évoquais juste à l'instant. Quand je suis arrivé dans le département en juillet 2014, j'ai été frappé par, en effet, ces remontées hein, du monde associatif, qui est également aussi des différents services, me disant, mais écoutez, oui, remplir un dossier de subvention, ça prend énormément de temps, c'est complexe, on a mis beaucoup de temps en termes de retour. Et je me souviens, il y a d'une réunion, c'était sur Arras, avec Frédéric Le Turc, le maire d'Arras. Il a fait la réflexion en me disant, monsieur le sous-préfet, ça ne va pas du tout, il faut que les choses changent, on est au 21e siècle, on a des outils numériques, il faut que les choses évoluent, on ne peut pas manipuler de la paperasse comme ça. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup interpellé parce que je me suis rendu compte qu'on travaillait comme on l'a toujours fait. Et en plus, avec peut-être une difficulté supplémentaire, c'est que le contrat de ville est un contrat de ville unique avec 20, 30, 40 partenaires, les institutions que j'évoque depuis tout à l'heure, fait que chacun donne son avis, parce que chacun donne potentiellement quelques crédits. Donc, ces documents papier circulent entre toutes ces administrations, ces institutions, chacun donne un avis, c'est extrêmement long, extrêmement complexe, et à la fin, le coût de gestion par rapport aux quelques centaines d'euros ou milliers d'euros qui sont attribués est des fois énormément disproportionné. Donc cette année, et c'est unique en France, on a décidé avec le département du Pas-de-Calais, la région Hauts-de-France, les 11 territoires concernés par la politique de la ville, les 11 contrats de ville, donc intercommunalités et communes, de travailler ensemble sur un outil 100% dématérialisé. C'est-à-dire que, et ça a commencé à partir du 1er septembre, et l'appel à projet se terminera le 30 novembre, tout va se passer de manière dématérialisée. Donc le site internet c'est politiquedelaville62.fr. Tout le monde, c'est un site qui est libre d'accès, d'informations, pour ceux qui en effet habitent les quartiers, s'intéressent à la politique de la ville, mais surtout qui est dédié aussi à ceux qui veulent déposer des projets, qui veulent agir, qui veulent être actifs, qui veulent participer en choisissant un territoire d'intervention à l'action. Et donc ils peuvent déposer un principe de projet sur lequel on va de manière très interactive pouvoir leur répondre en expliquant que leur idée convient ou pas au cadre du contrat de ville et le cas échéant si la réponse est positive, ils ont jusqu'au 30 novembre pour déposer un dossier définitif de manière dématérialisée. Donc là il y a un outil à la fois de pilotage, en totale transparence sur l'action publique, un contrat de ville unique, un guichet unique dématérialisé, transparence de l'ensemble des partenaires, collectivités, États, qui travaillent la main dans la main, et ça c'est unique en France, avec un outil qui a été fait par le département du Pas-de-Calais et les services de l'État, ça aussi c'est unique en France, et j'ai eu le plaisir en effet avec Madame la Préfète, ainsi que l'ensemble des élus de recevoir les services du Premier ministre pour annoncer l'inauguration de ce site, et le plaisir aussi de recevoir par exemple, pas plus tard qu'hier, des collègues de l'Oise qui vont le mettre en œuvre. Et des collègues également aussi de Paris, des Bouches-du-Rhône. Donc, le Pas-de-Calais leader, Le Pas-de-Calais également aussi sur ce sujet est pionnier, avec notre souhait, c'est que le standard du Pas-de-Calais devienne le standard national.
Nous vous proposons à présent de nous retrouver dans quelques instants après ce titre de Grand Corps Malade, Enfant de la Ville.
J'avoue que c'est bon de se barrer à la mer ou à la campagne, quand tu ressens ce besoin que ton envie de verdure t'accompagne. Nouvelles couleurs, nouvelles odeurs, ça rend l'essence euphorique. Respirer un air meilleur, ça change mon bout de périphérique. Est-ce que t'as déjà bien écouté le bruit du vent dans la forêt? Est-ce que t'as déjà marché pieds nus dans l'herbe haute? Je voudrais surtout pas représenter les colos relous à 4 centimes. Mais la nature nourrit l'homme, et rien que pour ça faut qu'on l'estime. Donc la nature je la respecte, c'est peut-être pour ça que j'écris en vers. Mais c'est tout sauf mon ambiance, j'appartiens à un autre univers. Si la campagne est côté face, je suis un produit du côté pile. Là où les apparts s'empilent, je suis un enfant de la ville. Je ressens le cœur de la ville qui cogne dans ma poitrine. J'entends les sirènes qui résonnent, mais est-ce vraiment un crime? D'aimer le murmure de la rue et l'odeur de l'essence. J'ai besoin de cette atmosphère pour développer mes sens. Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris.
Parlons Franf.
La radio autrement.
Vous êtes toujours dans votre magazine Parlons Franf, consacré à la politique de la ville en Hauts-de-France avec nos invités. Xavier Servinski, sous-préfet et secrétaire général délégué à la préfecture du Pas-de-Calais, chargé de la politique de la ville, et Patrick Rodier, inspecteur jeunesse et sport. À présent, nous retrouvons au micro Anthony Vasseur de Transat FM avec un nouvel invité pour parler des solutions émergentes au sein des quartiers pour dynamiser ces derniers.
Absolument Christophe, mon invité aujourd'hui c'est Nicolas Langlais, il est directeur du développement social urbain de Boulogne-sur-Mer, il gère entre autres le centre de ressources des associations boulonnaises, il est également chef de projet en charge de la politique de la ville pour la mairie de Boulogne-sur-Mer. On va parler de solutions émergentes qu'il a mis en place dans les quartiers prioritaires de Boulogne, en gros comment concrètement cela se traduit ce qu'on appelle la politique de la ville, et on va commencer par un outil qu'il a mis en place à Boulogne, ça s'appelle le Synapse. On lui a demandé de nous parler de la genèse du projet.
Alors le Synapse c'est un tiers-lieu, ce qu'on appelle le tiers-lieu, pour faire rapide hein, quand même, c'est voilà, vous avez la famille, en général le cercle familial, vous avez le cercle du travail ou de la formation, et le troisième lieu, où voilà, qui est ouvert à plein de projets, d'envies. Donc le tiers-lieu, le Synapse, on a appelé le Synapse parce que c'était au passage Chiblequin, donc un quartier nouvellement rentré en politique de la ville sur la commune de Boulogne. Et le Synapse parce que c'est des lieux de connexion hein, au niveau du cerveau, mais aussi c'est le Synapse, c'était un lieu de connexion entre deux quartiers, un quartier en veille, un quartier prioritaire, un lieu de connexion entre jeunes, moins jeunes, nos aînés, voilà, et des populations dites en fragilisées, ben parce qu'il y a aussi des gens sans domicile fixe, il y a des gens voilà où c'est pas évident de trouver du boulot, de vivre aussi ben dans cette société là. Donc le Sina c'était un lieu où chacun pouvait se retrouver, un lieu informel, sans jugement, où on en rentrait avec un projet, une idée, mais ça, ne serait-ce qu'un projet de boire un café et discuter à un moment donné avec des gens et créer du lien social. Donc le Synapse est né de ce besoin-là, dans ce quartier-là, et on a utilisé un local où on pouvait être reçu de façon informelle sur aucun type de projet, mais à côté de ça, on pouvait passer quelque part encore un passage, une connexion, dans une autre pièce où là, on pouvait travailler sur des projets un peu plus formalisés, réalisation d'un CV, recherche d'emploi, démarche administrative, recherche sur internet, je sais pas, pour un collégien sur l'art égyptien, ça nous est arrivé la fois dernière. Et à côté de ça, quelqu'un qui cherchait ben comment pouvoir mettre sa voiture en vente sur le bon coin, parce qu'il en avait parlé, mais voilà. Donc c'est aussi ben tout d'un coup, c'était un plus jeune qui expliquait à un aîné ben comment on pouvait utiliser un service internet. Donc c'est ça aussi de ce passage au Chiblequin, le Synapse, des lieux de connexion entre différentes entités qui ne seraient pas forcément réunis ou retrouvés à un endroit.
Vous l'avez dit, hein, l'intérêt du Synapse, c'est aussi ce lien très proche avec le numérique. Est-ce que justement le numérique, c'est le bon outil, ou en tout cas un outil pour désenclaver les quartiers prioritaires ?
Alors l'outil, ou le bon outil ou le mauvais outil, je ne sais pas s'il y a un bon ou un mauvais outil, mais je pense qu'il y a des outils qu'on peut utiliser. C'est-à-dire, le numérique c'était un peu une porte d'entrée. Bah, comment dans un passage Chiblequin où pendant quelques temps il y a pas forcément eu d'animation de commerce ou de vitrine pignon sur rue, bah, comment attirer une clientèle ou des usagers pour attirer l'œil, faire envie d'entrer. Donc le numérique c'est un peu, je dirais pas imposé à nous. Ben, c'est venu un peu comme une évidence en disant, on a la vie associative, on est parti de la vie associative qui a besoin d'outils numériques. Ben, comment on peut développer un centre de ressources numérique au profit des associations? Donc, c'était notre idée de départ. Et très vite, on s'est aperçu que, au-delà des associations, des gens venaient parce que ça les intéressait. Alors, de voir fonctionner une imprimante 3D, tout le monde ne l'a pas vu. Donc, les gens passent la porte pour demander ce que c'est. Et très vite, autour d'un café, on développe autre chose. Je pense que le numérique, c'est vraiment un outil qui nous a permis de rentrer en relation avec la personne, avec l'individu, et aussi un outil peut-être assez intéressant pour mélanger de l'intergénérationnel. Parce que c'est pas évident de pouvoir faire côtoyer des jeunes, ce qu'on appelle peut-être les geeks, et des personnes plus âgées un peu réfractaires au numérique. Et justement, le synapse, le numérique, on a tous besoin du numérique, ne serait-ce que pour remplir avoir une attestation sécu, par exemple, un loyer, déclarer Pôle emploi. La personne un peu plus réticente se faisait aider d'un plus jeune. C'était aussi un lien qui nous permettait de créer un pont entre deux générations, deux fonctions.
Alors, en plus du Synapse, vous êtes également en charge de mettre en place les conseils citoyens. Il y en a quatre sur Boulogne. Qu'est-ce que c'est exactement ce conseil citoyen ?
Oui, donc le développement social urbain de Boulogne, le DSU, association, a eu en charge de mettre en place les conseils citoyens. Donc les conseils citoyens, c'est des habitants ou des associatifs, ou bien aussi des entreprises ou commerces implantés sur les quartiers prioritaires, qui, alors soit par tirage au sort, ça dépend aussi les modalités pour être dans ce conseil citoyen. Donc nous, c'était sur des réunions publiques et sur la base du volontariat. Ben voilà, j'habite le quartier, j'ai des possibilités, j'ai envie de faire bouger le quartier, je me sens capable d'aller à la rencontre des habitants, d'être force de proposition. Le conseil citoyen, c'est ça, c'est des gens qui ont l'expertise du quartier, que nous, on n'a pas forcément, de notre œil de technicien, parce qu'on n'y vit pas tous les jours, le soir, je suis pas forcément dans le quartier, ainsi de suite le dimanche, mais eux, ils ont l'expertise du quartier, et comment ensemble, ils sont capables d'être la parole des habitants et de la relation qu'ils ont entre les habitants, les institutions, le pouvoir politique, et ainsi de suite, sans forcément être piloté par du politique. Dans les conseils citoyens, il n'y a aucun élu, aucun technicien de la mairie, c'est vraiment détaché. Et eux, comment ils ont cette capacité d'aller à la rencontre de l'habitant, de faire remonter des problématiques, mais aussi d'être force de proposition et de faire avec, et pas de faire seul dans son coin, la mairie seule dans son coin, et puis par exemple le bailleur seul dans son coin. C'est comment ensemble on arrive à faire avancer et à régler des problématiques de quartier. Alors que ce soit du mieux vivre ensemble, sur des rodéos moto, qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les points sensibles? Parce que voilà, faire une balade dans le quartier en pleine journée, c'est pas pareil que quand on rentre du boulot à 19h quand il fait noir. Bah, comment aussi l'habitant peut dire, on fait une balade, ça manque de l'éclairage à tel jour, telle heure, il faut mettre de l'éclairage parce que là, il y a des passages de moto, il y a des passages d'enfants. Bah, ils ont cette expertise, comment on va aussi s'enrichir et faire des propositions avec ses conseillers citoyens.
Alors, l'habitant, il a une place cruciale dedans. Comment vous faites pour les mobiliser, justement, les inciter à se mettre dans ces conseils citoyens? Parce que, d'accord, ils sont force de proposition, ils sont force peut-être aussi de décision sur certains points. Comment vous faites pour les mobiliser, pour les attirer dedans?
Alors après, je pense qu'il y a plein d'outils qui ont déjà été mis en place bien avant la mise en place des conseils citoyens. Si je prends, par exemple, le fonds de participation des habitants, ce qu'on appelle communément le FPH, c'est des sommes qui sont allouées par la région, de moins en moins, du reste, et aussi par la ville. Donc maintenant, la ville est majoritaire dans ce FPH au niveau financement. Et c'est un budget qui est autogéré par des habitants qui ont le droit de s'organiser et de décider, comme un peu des appels à projets. Ces gens-là ont une habitude de forme de démocratie participative et d'engagement. C'est auprès de ces gens-là, qui ont été les premiers ambassadeurs, d'aller chercher aussi des forces vives du quartier pour qu'ils intègrent les conseils citoyens. Mais je pense qu'on n'est pas resté forcément dans nos bureaux pour trouver des conseils citoyens. On a fait aussi un travail de proximité, c'est aller vers l'habitant, leur expliquer la problématique de la politique de la ville. Qu'est-ce que la politique de la ville? Parce que c'est, on parle de politique de la ville, contrat de ville. Bon, à un moment donné, on pourrait penser que tous ces gros mots là. Et non, justement, aller avoir une démarche pédagogique d'expliquer, dire, bah voilà, vous n'êtes pas simplement que des usagers ou des consommateurs de la politique de la ville. Vous pouvez justement être force de proposition parce que vous avez l'expertise, la connaissance du terrain. Et à un moment donné, il faudra aussi que nous, techniciens, on passe par votre œil et votre avis d'expert. Donc c'est là où on est allé les chercher, on est allé à la rencontre. Et à un moment donné, c'est même eux qui viennent à notre rencontre parce que ils ont diagnostiqué des problèmes, ils ont repéré des besoins sur le quartier. Et ça y est, après une formation, mais si on les a formés, parce que c'est pas évident de scoltiner la politique de la ville, de pouvoir parler en public à un sous-préfet, un préfet, un maire. Jamais évident, donc ils ont eu des formations pour qu'ils aient aussi une certaine technicité. Et maintenant, bah voilà, ils sont force de proposition, ils viennent nous voir.
Parlons France.
La radio autrement.
C'était Nicolas Langlais, directeur du service politique de la ville, entre autres, responsable de l'association DSU. Je vais vous demander de réagir, messieurs, à ce qu'il a dit sur deux choses. La première, c'est le numérique dans les quartiers comme moyen de les désenclaver. Et ensuite, sur la mise en place de ces conseils citoyens, parce que ça se fait à Boulogne, mais ça se fait aussi au niveau départemental, régional et même national. Monsieur le sous-préfet.
Oui, deux choses très rapidement. C'est vrai que la question du digital, c'est pour moi un enjeu fondamental et un enjeu fondamental sur la question qui est au cœur de la politique de la ville, c'est-à-dire l'autonomie et la capacité de rendre de l'autonomie aux habitants. La difficulté que l'on rencontre dans nos territoires, la question de la mobilité géographique, la question de la confiance en soi, la question de l'accès malheureusement à certains réseaux, à certains codes quand on a trois générations de chômeurs dans la même famille. Comment connaît-on les codes de l'entreprise? Le savoir-être, le savoir-faire, c'est encore autre chose. La question de l'autonomie et de tous les outils qui permettent de donner de l'autonomie, elle est fondamentale. Et le digital, c'est une des réponses. Alors, à Boulogne, de manière progressive, je dirais même empirique, il y a une vraie réflexion qui a été portée très intéressante avec Synapse, bien entendu, Simplon, l'école du numérique sur les décrocheurs pour apprendre le code à des personnes qui sont hors système scolaire. En 6 mois, leur redonner les bases d'un métier qui recrute, un métier d'avenir, avec notamment sur la promotion qu'on est allé voir avec Madame la Préfète et Monsieur le député maire il y a quelques semaines, des personnes qui sont déjà recrutées avant de terminer leur formation. La question, bien entendu, de l'installation d'entreprises autour du numérique, je pense à Soprasteria, exactement, volonté d'installer une entreprise au cœur du quartier dans le cadre du premier programme de renouvellement urbain à Boulogne, créer un véritable écosystème autour du numérique avec les associations, les Fab Labs, les expériences autour des imprimantes 3D. Il y a une vraie volonté pour redonner de l'autonomie, donner l'envie de reprendre des études, d'engager des études et surtout de mettre en avant les parcours d'excellence. Donc cette question de l'autonomie est fondamentale et le digital, s'il est bien utilisé, bien réfléchi, avec l'ensemble des outils que nous avons, et financiers notamment, politique de la ville, mais je pourrais parler des financements européens, des ITI, Valérie Létard a signé des engagements avec plusieurs territoires au nom du conseil régional, on a des leviers pour monter des beaux projets structurés et donner l'autonomie, en particulier aux habitants des quartiers. Alors bien sûr, les habitants des quartiers, c'est les conseils citoyens, c'est une initiative voulue par la réforme, qui correspond aussi à des réponses au rapport de 2012, encore une fois, mettre les habitants au cœur de la réflexion, mettre les habitants au cœur de l'animation de la politique de la ville, facile à faire sur le papier, plus difficile à faire dans la pratique. Il y a un certain nombre de démarches de démocratie participative qui existaient, il faut les respecter, les conseils citoyens viennent rajouter une brique supplémentaire, elles viennent mettre en lumière des habitants qui n'osaient pas prendre la parole, parce qu'ils n'avaient pas confiance en eux, parce qu'ils n'avaient pas confiance en leur capacité, ça se met en place.
Oui, pour prolonger tout simplement.
Rapidement.
Rapidement. Le numérique est présent partout, notamment chez les jeunes. Il importe aussi qu'il y ait des structures associatives, notamment, qui puissent accompagner les jeunes à utiliser au mieux Facebook, Twitter, etc., l'ordinateur, et les plus anciens, les faire accéder à mieux les faire accéder à Internet. Je pense aux personnes âgées, notamment, ils sont un peu perdus devant cet outil. Voilà.
Alors voilà, hein, donc concernant évidemment tous ces sujets, on n'aura pas le temps d'évoquer malheureusement les agendas d'accessibilité. Hein, on avait un sujet proposé par Patricia Bassama, malheureusement le temps passe très vite. Juste simplement, si on se met dans la peau de personnes en situation de handicap résidant dans les quartiers prioritaires, est-ce qu'on n'est pas un peu en droit de râler quand même parce que la loi de 2005 prévoyait une mise en accessibilité de tous les équipements recevant du public dès 2015. Est-ce qu'il faut se réjouir de la mise en place de ces agendas d'accessibilité ?
C'est un enjeu et un challenge, un défi sans précédent auquel on doit faire face, qui ne concerne pas uniquement les quartiers prioritaires de la ville. C'est des moyens publics considérables pour mettre aux normes l'ensemble des bâtiments publics. Beaucoup a été fait, pas suffisamment, au goût notamment forcément des personnes qui souffrent d'handicap. Mais la réalité et le pragmatisme fait qu'on doit aussi regarder la vérité en face, nos capacités financières, nos capacités à monter et à mettre aux normes l'ensemble des bâtiments, notamment les bâtiments anciens, qui pour certains sont très anciens. Donc dans ce contexte-là, l'agenda en effet, est, à mon avis, est d'un point de vue gestion très raisonnable. Maintenant, je sais bien et j'entends en effet la souffrance des personnes handicapées qui préféreraient que les engagements qui avaient été pris à une époque soient tenus et que les délais soient respectés.
Merci à tous pour votre collaboration et à très bientôt pour un prochain magazine Parlons Franfin.